D'abord, le printemps des banques centrales et de la politique monétaire, c'est le sujet à la une avec François Cabot, économiste zone euro chez AXA IM. Bonjour François.
Bonjour.
Merci bien d'être à nos côtés en plateau. Je crois que les banquiers centraux européens ont toutes les informations possibles à ce stade pour former leurs décisions ce jeudi. Hein, ce sera la date de la prochaine réunion du Conseil des gouverneurs de la Banque centrale européenne. Tout le monde attend un nouveau statu quo de la part de la Banque centrale européenne, mais quand on écoute certains poids lourds, François Villeroy de Gallo ou encore l'Italien Piero Cipollone qui vient d'intégrer le directoire de la Banque Centrale Européenne, on a le sentiment que ce sera peut-être difficile d'avoir un statu quo qui rassemble une unanimité pleine et entière à ce meeting. Quelle peut être la tournure des débats et quel peut être le terrain de compromis trouvé par Christine Lagarde en termes de communication pour ce meeting du 11 avril, François ?
Non, je crois qu'effectivement, la sphère de données est limitée. C'est-à-dire qu'on est 4 semaines après le dernier meeting, donc on a eu une donnée d'inflation principalement qu'on a eu la semaine dernière, qui en soi résume bien l'affaire. On a été surpris à la baisse, mais il n'empêche que l'inflation domestique reste stable et à niveau élevé, hein, 4% sur les services. Donc je pense que là-dessus, la conclusion pour moi est simple, c'est qu'ils sont d'accord pour ne pas être d'accord. C'est l'unanimité pour ne pas être d'accord, pour ne rien faire, effectivement, parce que l'environnement de données est relativement limité. Et ça a été très bien dit de manière très claire dès le mois de mars. On en saura un peu plus en avril, mais on en saura beaucoup plus en juin. Donc là, je pense qu'effectivement, on va avoir un statu quo en termes de communication, une donnée qui ne donne pas vraiment d'indication, avec encore une fois une surprise à la baisse, mais des services qui tiennent plutôt mieux que prévu. Et donc, de nécessité d'en savoir plus, avec des données notamment de comptes nationaux beaucoup plus.
Détaillé,
exactement, ouais. Autant sur l'activité, sur les profits que sur les salaires, qui leur permettront effectivement, on l'espère, de trouver un consensus, peut-être pas unanimité, mais en tout cas un consensus fort au moment du mois de juin pour baisser les taux, et c'est ce que nous prévoyons et en ligne avec le marché hein, de manière assez consensuelle maintenant, mais surtout pour donner une direction. Où est-ce qu'on va après juin? Et là, on a effectivement besoin d'avoir une vérification sur les hypothèses clés qu'a énoncé la BCE en mois de mars sur un rebond cyclique de la productivité du travail. Peut-être, de notre point de vue, pas franc, en tout cas pas des joints. Et vous l'indiquez effectivement, la saison des résultats qui commence, et donc, du coup se rendre compte à quel point est-ce que les profits des entreprises, en tout cas en Europe, pourraient commencer à devenir être.
Aider à la baisse de l'inflation.
Exactement. Se réduire.
La boucle prix-profit et non pas prix-salaire.
Se décélérer pour, ouais. En absorbant les coûts salariaux et de ce fait permettre effectivement d'être rassuré sur une trajectoire de baisse des taux.
Comment peut se former la négociation? Alors, sur la base des éléments que les banquiers centraux européens peuvent avoir aujourd'hui, si on maintient le statu quo pour cette réunion, est-ce qu'il y a un enjeu pour la réunion du mois de juin et celle qui suivra dès le mois suivant, en juillet par exemple, François? Est-ce qu'on peut imaginer une négociation entre les deux parties du Conseil de ce point de vue-là?
Moi, je pense que pour ce mois-ci, pour cette réunion-là d'avril, c'est très clair. Hein. Ils se sont mis d'accord en mars,
oui.
On ne fera rien.
Il n'y aura pas de surprise.
Exactement, il n'y aura pas de surprise. Et, en fait, et c'est justement ça, toute l'affaire va se délier quelque part dans les 8 prochaines semaines avec ces données. Est-ce qu'elles viennent vraiment confirmer le signal de la BCE, auquel cas ils peuvent se mettre d'accord sur juin rapidement, enfin, sans trop de difficultés, et donc du coup sur juillet, ouais. Ou alors on y va mais à petits pas parce qu'on n'est pas vraiment confiant sur ces hypothèses-là, et donc on s'est globalement mis d'accord sur juin en se disant finalement la barre est vraiment très haute pour ne pas baisser les taux, mais sur juillet on attend finalement encore un trimestre entier parce qu'on a donné que des données trimestrielles sur ces comptes nationaux détaillés, et donc du coup on ne fera que septembre en se disant que si ça va plus vite, bon, on ne ferme pas la porte à juillet mais en restant très très dépendant des données. Et c'est d'ailleurs nous notre scénario chez nous où on a effectivement depuis l'été dernier une première baisse en juin, en septembre et en décembre.
D'accord.
En disant que cette persuasion des données va prendre du temps parce qu'elle n'est que trimestrielle et on a besoin effectivement de cet ensemble d'informations pour que le Conseil des gouverneurs prenne cette décision avec le plus grand consensus possible.
Ouais. Est-ce que on peut imaginer que Christine Lagarde aimerait bien avoir une majorité, j'imagine, pour sa première baisse de taux,
oui.
Quand même, d'afficher une majorité.
Absolument.
Plus qu'un consensus solide,
oui,
ce serait quand même,
majorité,
j'imagine,
oui,
voire une unanimité, peut-être même. D'ailleurs, c'est ce qu'elle cherche peut-être pour le mois de juin. Le scénario que vous décrivez chez AXA IM, donc baisse chaque trimestre, hein,
oui.
Juin, septembre, décembre, est-ce qu'il intègre également l'idée d'une reprise cyclique, conjoncturelle, en zone euro, on a eu des données dures de production industrielle en Allemagne qui tranchent un petit peu avec l'ambiance des enquêtes, hein, qui reste quand même toujours assez, assez pessimiste, quand bien même, là aussi, on voit des enquêtes remonter légèrement. Et est-ce que cette reprise cyclique en zone euro peut générer un risque inflationniste supplémentaire?
Alors, oui et non, au sens que oui, on a une reprise, mais très modérée. C'est-à-dire qu'on a une prévision à 0,1 pour ce trimestre-là, 0,1 de croissance sur le PIB au deuxième trimestre, et après 0,2 au troisième et quatrième trimestre. Donc on vient de zéro, donc oui, on accélère, mais de manière très modérée. On n'a pas du tout une reprise qui indiquerait qu'on a un output gap négatif, et du coup, on réaccélérerait au-dessus du potentiel. On a quelque chose de vraiment très... très ténu, très modéré. Et là-dessus, nous, notre idée qui nous tient dans notre scénario et qui nous a donné raison depuis 18 mois, finalement, c'est qu'on se rend bien compte qu'il y a un équilibrage très compliqué sur l'offre et la demande. Alors, la demande, oui, est ténue et ne se porte pas bien, mais aussi parce que l'inflation et réaction politique monétaire et bientôt la politique budgétaire qui va aider dans ce sens-là. Mais on sent aussi qu'on a des contraintes d'offres qui sont prégnantes, qu'on voit sur les problématiques de recrutement, qu'on voit sur la croissance de la productivité. Donc, on sent bien qu'il y a quand même une difficulté à envisager un rebond très fort. Et puis, et là, c'est peut-être la surprise de ce matin, et à voir si elles sont confirmées dans les prochains trimestres, mais on sent bien qu'il y a une vraie divergence sectorielle, services manufacturiers, et notamment aussi en Allemagne, on voit aussi les secteurs énergétiques qui restent largement délicatesses. Donc, une grande partie de ce rebond surprenant de la production industrielle allemande ce matin, c'est la construction. Ouais. C'est quelque chose qui était très, très négatif, qui faisait du moins 20% sur le trimestre de mémoire au T4, et là, qui rebondit très fortement. Donc, je pense qu'effectivement, on n'est pas encore dans ce scénario-là où on peut être pleinement plus optimiste.
On est loin du décollage de la fusée, quoi.
Voilà, absolument.
Oui, je comprends.
Absolument.
Ouais. Comment vous regardez également les enjeux en matière de politique budgétaire. Là aussi, du point de vue de la politique monétaire, hein, c'est un facteur, j'imagine, qui entre en compte, notamment dans ce qu'on appelle le policy mix. On attend toujours des banques centrales qu'elles nous offrent une guidance, forward guidance. Est-ce qu'il y a un peu de fiscal guidance également du côté des décideurs de politique budgétaire en zone euro aujourd'hui? Si oui, qu'est-ce que vous en comprenez? Et qu'est-ce que cette dimension budgétaire peut apporter, ou non, d'ailleurs, au policy mix européen dans les prochains mois et les prochains trimestres?
Ah bah, une contribution peut-être cachée aux deux des investisseurs, mais en tout cas qui pour nous apparaître au grand jour dans les prochains jours. Ça, je pense, c'est vraiment la donnée qui, dans le calendrier européen, est toujours un peu cachée au mois d'avril. On a ce qu'on appelle la publication de la mise à jour des programmes de stabilité et de croissance.
Donc, le semestre européen.
Exactement, du semestre européen, et qui, compte tenu probablement de la performance des spreads ces derniers mois, a été probablement mis un peu sous le tapis, en se disant de toute façon, ceci n'a pas lieu d'être et en tout cas n'est pas une variable dépendante, explicative des spreads. Mais là, je pense vraiment qu'il y a matière à regarder de manière très scrupuleuse les programmes de stabilité italiens et français, qui sont les deux pays pour lesquels on a effectivement des dérapages budgétaires importants en 2023, et sur lesquels on a une question de... pour moi, de suroptimisme de la croissance, en tout cas telle qu'elle avait été publiée au mois de septembre, donc et à revoir et revoir à la baisse. Et puis également, dans les deux cas, à la fois sur le plan du côté italien avec le super bonus qui est encore et très bien reparti sur les deux premiers mois d'exécution de l'année budgétaire 2024, dont on a resserré la baisse une nouvelle fois.
On rappelle, c'était 110% de subvention des travaux à la maison, hein,
Tout à fait. Et donc, du coup, qui a généré effectivement le rebond de croissance italien qu'on a eu ces deux dernières années, c'est la construction. Et donc, du coup, si on enlève ça, effectivement, on se dit bien que le fondamental est plutôt faible. Et donc, effectivement, de se rendre compte des plans, de leur crédibilité, à la fois sur d'un point de vue de performance économique, et de se dire à quel point est-ce que cette relative rigueur, j'ose pas à peine utiliser le mot, de chacun des pays peut ralentir la croissance, ou en tout cas peut être un élément négatif, et puis surtout d'un point de vue des marchés, être un peu ce qui met la puce à l'oreille, de dire mais où est mon fondamental, où est ma valeur macro là-dedans, qui a été largement écrasée ces derniers mois. Et on peut se dire qu'effectivement, s'il y a un élément déclencheur ces prochaines semaines, parce que c'est au cours du mois d'avril, et normalement on a le plan italien demain, se rendre compte, est-ce qu'il y a une crédibilité qui est toujours là, ou au contraire on marche un peu sur des œufs et on ne sait pas très bien où on va, et tout ça est trop optimiste. Et effectivement, à voir ce que les gouvernements décident, et ça va être clé à la fois pour la réévaluation du risque de la part des marchés, et également du point de vue de la politique monétaire européenne, pour se rendre compte effectivement à quel point est-ce que cette politique budgétaire peut devenir de fait beaucoup moins allant équivalente, mais carrément soutenir quelque part un ralentissement restrictif,
quoi.
Cyclique à la suite de ça.
Est-ce que, au-delà du débat sur le put des banques centrales, est-ce qu'il y a toujours un put budgétaire venant de l'Europe avec notamment l'enveloppe, alors ça nous ramène évidemment au lendemain de la pandémie, mais l'enveloppe NextGen EU qui existe toujours, est-ce que ça représente un put budgétaire, un put sur l'économie de la zone euro devant nous encore ?
Ah, je crois pas. Malheureusement, je pense que le gros des bonnes nouvelles a été pricé et probablement peut-être un peu surattendu. Hein, quand on voit le développement, l'exécution de ces plans-là, si on prend simplement le plan italien comme exemple, qui est d'ailleurs le plus gros bénéficiaire, hein, c'est ce pays-là qui va en bénéficier le plus, c'est de ce pays-là dont on attend le plus de nouvelles positives, notamment vis-à-vis de la soutenabilité de sa dette publique, in fine. Et on voit que il y a grosso modo en 85-90 milliards qui ont été déboursés, enfin que l'Italie a reçu, et
oui,
ils en
ça.
Ont dépensé en eh gros 25-30 milliards maximum a priori. Donc il y a quand même un retard à l'allumage sur la réception et l'implémentation des fonds, et surtout aussi sur ces contraintes, enfin en tout cas ces conditions sur lesquelles les fonds seront après potentiellement à recevoir, et celles-ci vont être de plus en plus difficiles, ouais. Et dépendantes de la mise en place effective des réformes entre-temps et des investissements entre-temps. Donc là, effectivement, de se dire qu'il y a encore une vague positive et une surprise à la hausse là-dessus, je pense vraiment pas là-dessus. On est plus sur l'implémentation. Est-ce qu'on dépense effectivement de manière utile et productive l'argent qu'on a reçu et qu'on va recevoir, et là-dessus, on peut commencer déjà avoir un petit peu des doutes.
Qu'est-ce qui se passe si la Fed ne baisse pas ses taux, ou en tout cas ne les baisse pas autant que ce qu'on imaginait jusqu'à présent, autant que ce que la Fed elle-même a signalé encore lors de son prochain meeting, c'est-à-dire 3 baisses de taux à commencer sans doute à partir du mois de juin? Est-ce que c'est un calendrier que vous avez confirmé encore chez AXA IM? Il y a la donnée d'inflation du mois de mars qui semble clé peut-être pour les stratégistes et les prévisionnistes de ce point de vue-là, mais est-ce que vous entendez le risque tel que le marché le considère aujourd'hui, c'est-à-dire une première baisse peut-être pas avant septembre?
Alors, tout à fait, c'est un risque. C'est pas notre scénario. On a une baisse symétrique parallèle de la BCE et de la Fed en juin,
ouais.
Sur laquelle suit donc 3 baisses de taux de la BCE et ouais. 4 baisses de taux de la Fed, sur lesquelles on pourrait renier largement sur la dernière qu'on a mise en intermeeting sur le meeting d'octobre-novembre. Et celle-ci, elle peut largement être enlevée. Par contre, là où pour moi, si vous voulez, enfin, on prend la question différemment, c'est pas tant... est-ce qu'elle démarre avant ou
temps,
après ?
Ouais, je comprends.
C'est, donc pour moi, la BCE, c'est clairement juin, et la Fed pourrait très, très, très clairement être septembre. Mais la question, c'est quelle est la suite ? Est-ce que c'est 2 ou 3 de la Fed, ou alors est-ce que c'est pas du tout en 2024, et combien en 2025 ? Est-ce qu'on peut avoir une vraie divergence ? Parce que jusque-là, les marchés ont été pricés et repricés en parallèle, et là, on a simplement 25 points de base de moins sur la Fed que sur la BCE sur 2024.
Il n'y a pas que le point de départ.
Exactement. Et puis sur l'ensemble de la trajectoire. Là, par contre, si on devait avoir une vraie remise en question avec une divergence cyclique, on parlait de contraction, en tout cas de frein à la croissance côté budgétaire européen. On pourrait en avoir un positif côté américain. Est-ce qu'on peut avoir une vraie divergence supplémentaire, plus que ce qu'on connaît aujourd'hui du côté de la croissance, et donc du coup sur les trajectoires de politique monétaire de chaque côté de l'Atlantique? Là, effectivement, je pense que c'est quelque chose qui n'est pas du tout pricé, et sur lequel, bah, justement, cette perception du risque là dont on parlait, qui était pas du tout qui était largement mis de côté pour l'instant, on était sur une vague qu'on surfait de risk on allègrement, pour être revu au goût du jour, effectivement, et avec une politique monétaire qui dont le frein a été que très faible à la fois en Europe et aux États-Unis, et dont on attend finalement les effets négatifs. Et plus on reste haut longtemps, plus de fait ce coup d'arrêt pourrait devenir abrupt à l'horizon, et donc du coup de revenir un repricing signe de risque à l'aune de ces développements-là, effectivement.
Bon, enjeu majeur hein, pour les décisions de banque centrale devant nous, avec l'inflation américaine pour le mois de mars qui sera publiée ce mercredi, et bien sûr, la communication de Christine Lagarde à l'issue du Conseil des gouverneurs de la BCE qui se tiendra ce jeudi. Merci beaucoup, François, d'avoir été avec nous en plateau. François Cabot, économiste zone euro chez AXA IM.